Bienvenue dans Entre deux notes, le podcast où on parle musique, création et tout ce qui se passe entre deux idées. Salut à toutes et à tous. Comment ça va aujourd'hui, Linvi?
Ça va très bien. Et toi, PKNWT?
Ouah, top! Ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode où on va plonger dans le sujet qui touche à tous les producteurs. Comment passer cette fameuse 8-bar loop à un morceau complet qui tient la route? Bien sûr, il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour où on se retrouve face à face, enfin. Toi qui viens de Belgique et moi qui habite en Suisse, tu as fait toute cette route pour venir dans mon petit home studio.
Oui, et pour la piscine.
Et surtout pour la piscine, visiblement, oui. Puisqu'on n'a rien à vous présenter au niveau musical. Pas pour le moment. Peut-être pas, on ne sait pas. On verra. En tout cas, c'est la surprise. Restez connectés sur nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de streaming. Peut-être quelque chose sortira, une petite surprise. On verra tout ça. Effectivement, sujet du jour, 8-bar loop. Peut-être vous ne connaissez pas ce terme. Qu'est-ce qu'une 8-bar loop? Alors moi, j'ai une petite définition. Une 8-bar loop, c'est une boucle musicale de 8 mesures, dont 8 mesures, qu'on répète en boucle. C'est souvent la première idée d'un morceau, un beat, une basse, un synthé. Ça sonne bien, mais ça tourne en rond si on n'en fait pas un vrai arrangement. Est-ce que c'est une bonne définition?
Oui, ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air, c'est l'ébauche du morceau, simplement. Parce que souvent, on a l'habitude de travailler un peu en mettant en boucle nos instruments. Comme ça, on peut voir si on peut rajouter quelque chose par-dessus. Donc, on a tendance à écouter en boucle la production qu'on a faite. Et donc, en général, on commence par 8 mesures. Donc, oui, ça m'a l'air assez précis.
Ouais. Je précise aussi, c'est surtout dans le cadre de la production musicale électronique, souvent, qu'on fait des 8-bar loops. Bah, ça pourrait être aussi dans la pop, peut-être le rock, je ne sais pas. Peut-être on prend une guitare et on a un super refrain. Et ce refrain, on le fait tourner en boucle, en boucle, en boucle sur sa guitare. Mais en fait, on n'a pas d'intro, on n'a pas de break, on n'a pas d'outro, on n'a pas de milieu, on n'a pas de début, on n'a pas de fin. Bah, on est dans une 8-bar loop, voilà.
Exactement.
Et pourquoi, Linvi, est-ce qu'on reste bloqué là-dessus?
On a tendance à chipoter un peu, on teste un peu les instruments qu'on a, les mélodies, mais on ne sait pas trop où on va, donc je pense que c'est peut-être ça qui pose le problème au début. Donc on peut très vite recoincer dans la même boucle, en fait. Ouais.
Effectivement. Moi, ce que j'avais comme problème dans mes débuts, c'était d'identifier simplement, dans un morceau qui est publié, finalement, de mes artistes préférés, bah, leur structure. Comment eux sont passés de cette peut-être 8-bar loop à un arrangement complet? Et quels étaient les obstacles qu'eux, ils ont dû surmonter pour y arriver? Et surtout, quel était le process, finalement, pour se débloquer? Mais maintenant, est-ce que tu as, toi, eu une expérience là-dessus? Est-ce que tu as été bloqué sur ces 8-bar loop? Et qu'est-ce qui, selon toi, te bloquait?
Ah oui, ben moi ici, quand j'ai commencé, donc ça fait un an, mais le tout premier mois, j'étais bloqué sur des 8-bar loop. N'arrivais pas à sortir de ça parce que voilà, je ne savais pas trop où emmener ou comment faire une intro. Ça, j'étais peut-être un peu intimidé aussi, je pense. Donc voilà, c'est un peu compliqué, oui, au début. Mais j'ai connu ça, donc je pense que tout le monde connaît ça au début. Hein, donc même les grands artistes, je pense que c'est un passage un peu obligatoire. Et je crois que c'est un problème assez courant aussi, c'est pour ça qu'on en parle. Mais si on regarde sur des forums ou autres, ou bien on parle un peu autour de soi, il y a beaucoup de producteurs qui sont un peu coincés dans ce schéma-là. Donc, malheureusement, c'est un problème courant et je suis passé par là aussi.
Moi, l'expérience que j'avais quand j'ai recommencé il y a un peu plus d'un an à vouloir produire de la musique et à me débloquer de ça, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon idée et je vais commencer à faire ce qu'on appelle un jam. Donc, je me mets sur mes synthés, je me mets sur mon digital audio workstation et je lance une idée. Je lance une idée, je la développe, je fais ce qu'on appelle une progression. C'est-à-dire que je commence par un kick, un snare, un hi-hat, ensuite je commence à mettre une basse, etc. Et je monte comme ça, et je me dis que c'est comme ça qu'on va composer un track entier. Alors ça peut être vrai dans certains genres, hein, comme je sais pas moi, la techno minimaliste ou le rock progressif ou les choses comme ça, ok. Par contre, en faisant comme ça, ce que j'ai remarqué, c'est que je dégage pas vraiment un cœur, une mélodie ou quelque chose de catchy qui, justement, peut se répéter et ne pas être trop lassant dans un morceau complet. Et finalement, je dégage rien d'autre qu'une nappe créative, quelque chose qui va être un fond musical. Et donc, finalement, ce process me disait, mais attends, je sais faire une 8-bar loop dans mon coin, je sais à peu près faire un jam, mais j'arrive toujours pas à faire le pont entre les deux. Comment y arriver, quoi? Et c'est là où un professeur, ou en tout cas un autre producteur, m'a simplement débloqué. Voilà. Mon process à moi, c'était le suivant. C'est qu'il m'a demandé de faire deux fois quatre mesures intéressantes, différentes ou dans la même gamme. En tout cas, il m'a demandé de faire deux morceaux, c'est-à-dire cette 8-bar loop, enfin, cette fameuse 8-bar loop. Et une fois que je l'ai faite, bah, il m'a montré comment la décliner. Voilà. Comment peut-on décliner une 8-bar loop, d'après toi, Linvi? D'après ton expérience?
Ah, d'après mon expérience, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais effectivement, peut-être de faire deux parties différentes, puis essayer de les recoller, de trouver un moyen de les bridge, de les associer, comme tu as fait, effectivement. Dans mon cas, ça a été un peu de... J'ai travaillé de manière un peu linéaire. Ce qui m'a aidé à me débloquer, c'était de simplement de me mettre une deadline, donc de me mettre une date limite. Je me suis dit, bon allez, ça fait un mois que t'es bloqué, à telle date tu dois sortir un morceau. Et donc c'est ça qui m'a vraiment... j'ai dû trouver un moyen de me sortir de ça, en fait. Donc j'ai regardé des tutos, j'ai commencé à analyser d'autres morceaux, et en fait c'est ça qui m'a aidé, c'est d'avoir analysé un peu d'autres morceaux et d'essayer de reproduire un peu, pas forcément exactement la même chose, mais de reproduire une progression avec une intro, puis après de travailler de manière linéaire, en fait. Parce que je pense que le problème, c'est quand on travaille avec des 8-bar loops, je crois que ça peut varier de l'un à l'autre, parce que toi, par exemple, tu ne travailles pas de manière linéaire, je le sais, mais je pense que ça peut aider peut-être pour certaines personnes, c'est de travailler de manière linéaire, donc de commencer d'abord par l'intro, enfin, ou du moins une fois qu'on a ça, c'est d'essayer de faire un autre morceau qui pourrait correspondre à une intro, et regarder plus tard comment les lier. Et après, une fois qu'on a l'intro, c'est de regarder un peu une progression ou autre. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'aborderai le problème. En tout cas, et que j'aborde le problème, c'est de travailler un peu de manière linéaire. C'est une fois que j'ai mon cœur du morceau, je commence quand même aussi avec une 8-bar loop, ça ne change pas depuis le début. Mais après, moi, je passe directement à l'intro. Et après, je me dis, je verrai plus tard comment lier ces deux choses-là. Donc c'est un peu comme ça que je fais et j'avance petit pas par petit pas.
Ok. Effectivement, moi, j'ai commencé par faire ces deux sections de 4 bars et j'ai dû les bridger. Alors, pour l'information, ce fameux morceau que j'ai fait, le premier, je ne l'ai jamais sorti parce qu'il est... Finalement, il ne m'a pas plu, même si j'ai réussi à en faire quelque chose. D'ailleurs, il faudrait que je le réécoute, celui-là. Voir ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a bien vieilli ou pas?
Ah, il faut que tu me fasses écouter.
Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, oui. Bah, en plus, tu es là. Putain, je peux même pas me cacher en plus.
Ah non, là, maintenant que t'en parles, oh, t'es coincé.
Mon Dieu. Donc on verra. Il y a beaucoup de pression. Là. On va le réécouter s'il fonctionne toujours, si le fichier fonctionne toujours, mais ça devrait être bon. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que ensuite tu passes en mode arrangement. Alors dans les Digital Audio Workstation, souvent tu as un mode un peu loop, comme dans Ableton par exemple, ou Logic, ou moi Bitwig. Et après, tu as une phase un peu arrangement. Alors la phase loop, c'est plutôt des cases qui sont un peu limitées, effectivement, dans ce temps. Ça peut être des loops de 4 bars ou de 8 bars, effectivement. Et dedans, ben, tu vas effectivement faire record et tu vas enregistrer le son. Et puis quand il a fini ses 4 ou 8 bars, ben, il va reboucler. Voilà. Il va le replayer, en fait. Voilà. Donc moi, souvent, j'enregistrais dans cette partie-là. Et ensuite, une fois que toute cette section est faite, c'est-à-dire que j'ai mes 4 bars de kick, mes 4 bars de snare, de hi-hat, de basse, de pad, de lead, etc. Ben en fait, tu peux prendre cette partie-là et finalement la glisser-déposer ou la faire copier-coller, bref, dans cette partie arrangement. Et la partie arrangement, elle, c'est plus comme une longue partition.
Oui.
Hein, une longue partition qui pourrait ne pas se finir, mais disons que dans cette partition, tu vas dire bah, le début, c'est 0 seconde et la fin, c'est, je ne sais pas moi, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes de ton morceau. Et c'est là-dessus où tu vas dire bah, je pose mes fameux bouts Et si je veux qu'elles soient répétitives, il faut que je les fasse suivre l'une à côté des autres. Et plus simplement, je la pose et puis elle va se répéter toute seule. Donc, tu commences à les poser comme ça. Et ce qu'il faut, c'est trouver une structure. Et c'est ça le plus dur, c'est de trouver les structures. Mais en fait, tu vas sur Internet et tu cherches structure de morceaux pop, structure de morceaux électro, et t'en trouves plein, en fait. Tu trouves plein de structures assez classiques.
Je pense, avant de faire la structure, je pense qu'il y a une étape intermédiaire, c'est d'abord de faire des variations, comme tu dis, c'est faire des blocs.
Ouais.
Et après, effectivement, c'est de faire un premier bloc, et après peut-être d'en faire un deuxième.
Mmh.
De le varier un tout petit peu, donc il arrive à boucler avec le premier, et comme ça tu as peut-être une possible autre bloc, autre partie du morceau que tu pourrais servir comme une intro, comme un break ou peu importe, pour changer la répétition et pour faire le lien, parce que si on essaie de faire directement tout un arrangement de morceau, moi en tout cas ça m'a beaucoup intimidé au début, et donc explorer un peu, de faire des variations, donc de reprendre ma première section, de la dupliquer, puis après de la varier un tout petit peu et de m'arranger à ce qu'elle boucle avec la première. Comme ça, ça fait un truc plus progressif, un morceau plus progressif, mais ça m'a permis de me débloquer un peu là-dessus. Et après, je me suis dit, je vais faire un morceau progressif pour le premier, ou en tout cas, je vais commencer par ça, par une progression, et après, je vais faire une section plus nette en disant que ça va être mon break, par exemple, ou ça va être le chorus ou autre. Et de là, on peut commencer à dégrossir et à faire peut-être attaquer l'arrangement. Mais c'est vrai que de se mettre dès le début, de se dire il y a un arrangement à respecter, il faut le faire dès le début, je pense que c'est ça qui va être un peu intimidant pour le débutant.
Déjà, savoir qu'il faut arranger un morceau, c'est déjà quelque chose.
Il y a des structures classiques.
Que c'est une phase, l'arrangement. Ça, c'est vrai que tu te dis, en fait, moi, je veux composer. Donc, je compose. En fait, tu penses que composer, c'est aussi arranger, tu vas te dire. Voilà. Mais en fait, non, quand tu composes effectivement des mélodies, t'es des fois sur ton piano, sur ta guitare, hein, comme on disait avant, et tu fais cette fameuse loop, mais t'es pas encore en train d'arranger. Arranger, c'est effectivement, comme on disait, prendre ces idées et les mettre sur cette partition qui commence donc à 0 seconde et qui finit à la fin de ton morceau, on va dire, en différentes sections. Et là, on va parler des grandes sections pour un morceau électro, par exemple. Alors, quelles sont ces sections? Je vais vite les citer, puis on va les passer. Donc, c'est l'intro, super important, ce qu'on appelle le couplet, ou verse, d'accord, le chorus, qui est finalement le refrain, un break, et une outro. Ça, c'est un peu les grandes sections qu'on va retrouver dans un morceau électro. Alors, qu'est-ce qu'une intro? Moi, ce qu'on m'a dit, surtout, c'est qu'actuellement, dans le monde un peu du streaming musical, l'intro devient de plus en plus importante. On sait que beaucoup de titres emblématiques, des fois, commencent ultra doux, genre juste avec, un peu de percussion vite fait, et qu'on a une explosion au milieu du morceau. Maintenant, si on veut se faire écouter dans le milieu du streaming, où on peut très facilement zapper au moins de 3 secondes un morceau, il faut effectivement, dans les 5 à 10 premières secondes, avoir quelque chose qui te catchy. Quoi.
Oui, il faut hook l'auditeur, comme on dit, donc il faut attraper l'attention de l'auditeur pour pas qu'il décroche du morceau et qu'il reste jusqu'au bout, le plus longtemps possible.
Parce que à l'époque où on devait acheter un album ou qu'on écoutait à la radio, déjà la radio, tu pouvais pas zapper. Enfin, si, tu pouvais changer de chaîne de radio, d'accord. Mais voilà, tu pouvais pas non plus zapper le morceau. Et quand t'achetais pareil un album, des fois tu pouvais même pas savoir ce qu'il y avait dessus avant. Bon bah tu l'as acheté, tu l'as l'écouté, entre guillemets. Bon, là maintenant avec le streaming, c'est tu écoutes, t'es sur une super playlist et t'as un nouveau morceau qui arrive. Hop, il y a quelque chose qui te plaît pas ou quelque chose qui est trop lent ou quelque chose que tu comprends pas et que t'as tout de suite envie d'avoir ton morceau emblématique, je sais pas. En une pression, peut-être même sur ton casque. Maintenant tu peux presser sur ton casque pour faire next. Sur ton téléphone, tu peux faire next. Bref, hook, très très important. Donc l'intro est devenue assez importante.
Bah, c'est comme pour les vidéos, je pense que c'est un peu lié à la perte d'attention qu'on a à cette époque-ci. C'est que les vidéos, c'est pareil, que ce soit une vidéo YouTube ou un short ou une vidéo TikTok, c'est dès les premières secondes, il faut attirer l'auditeur. Donc par exemple, sur YouTube, on va mettre les meilleurs passages, une mini-compilation des meilleurs passages avant de passer à autre chose ou passer à la vraie introduction de la vidéo, la présentation du youtubeur, ou sur le TikTok, ça va être un visuel ou ça va être quelque chose qui va intriguer l'auditeur, le visionneur dès le début, quoi. Donc c'est même pour les vidéos, c'est le même problème en fait. Donc c'est un peu la même problématique, c'est de capturer l'attention sur un court temps et dès le début pour être sûr que la personne ne part pas, comme tu dis, au bout de 2-3 ans.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, ben, on a le couplet, donc ce qu'on appelle verse. Selon moi, c'est une des parties les plus importantes, parce que c'est ce qu'on entendra le plus dans ton morceau. Même si, effectivement, le refrain, c'est le moment le plus fort, pour moi, le verse, c'est finalement là-dedans qu'il y a déjà, en tout cas, une grande partie de ton idée. Moi, je travaille comme ça. Je sais pas si toi, mais tu me diras. Moi, le couplet, c'est finalement le cœur de mon idée. Et le chorus, c'est là où je me creuse la tête pour le rendre encore meilleur. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh.
Comment tu travailles, toi, à ce niveau-là, au niveau couplet et...
Mais en général, le couplet, c'est le cœur de mon idée aussi, mais ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir trouvé une autre idée.
Mm-hmm.
J'ai eu un genre de breakthrough, donc j'ai eu mon Eureka, et je me suis dit, en fait, non, attends, ça, j'ai trouvé une autre mélodie, et celle-là, ça va être mon drop, et après l'autre, bah, au final, ça va devenir mon intro, en fait. Donc, ça m'est déjà arrivé d'interchanger au final. D'interchanger, parce que j'avais travaillé une mélodie et du coup ça attire l'attention, mais du coup je l'ai mise en intro justement pour capturer l'attention, et après j'ai mon drop qui est une autre mélodie un peu plus un peu plus avec le reste. Ça dépend un peu, mais effectivement c'est, j'ai la même méthode que toi sinon.
Okay.
Après je pense que voilà, c'est le refrain, ça reste la partie
voilà
qui reste en tête des auditeurs, et donc la partie un peu catchy du morceau.
Voilà. Là-dedans, normalement, il y a un peu de tout. Alors souvent dans ce couplet, on va progressivement rajouter des éléments aussi. On va peut-être pas tout de suite révéler, on va révéler la mélodie, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, il y a les accompagnements, ça c'est sûr, il y a la basse, ça c'est sûr, voilà, il y a peut-être pas tous les drums. En tout cas, l'idée globale est posée dans ce couplet. Et c'est l'endroit où on va se reposer systématiquement après des montées, après des descentes, etc. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est la colonne vertébrale. Voilà, pour moi. Ensuite, chorus, effectivement, donc ça, c'est le refrain, on connaît tous, c'est tout ce que c'est un refrain. C'est un peu l'endroit où il y a peut-être le cœur de ce qu'on veut expliquer aussi, de ce qu'on veut retransmettre dans la musique, que ça soit au niveau des paroles, que ça soit au niveau du lead, qu'on appelle, hein, c'est-à-dire la mélodie principale, où c'est là qu'elle va exploser, c'est là où l'intensité sera normalement le plus haut, en théorie. Selon où on se trouve dans le morceau, mais en tout cas, c'est là où il y aura le plus d'intensité. Est-ce que le refrain, on peut le laisser longtemps dans un morceau?
C'est une bonne question. Je dirais que ça dépend des éléments qu'on apporte dedans. Moi, ici, j'essaie juste au feeling de voir, de savoir quand ça dure. Quand c'est assez, quoi. Donc, il faut avoir des variations. Et je pense que si on n'a plus de variations à amener, ben, ça peut être peut-être le moment de passer à un autre arrangement, que c'est une astuce comme une autre. Si on a vraiment... Parce que ça peut être comme des morceaux qui peuvent durer 6 minutes et des morceaux qui durent 3 minutes 40. Ça dépend un peu de la variation que tu peux amener, quoi. Est-ce que tu peux faire une durée plus longue, mais faut être confiant sur le fait de capturer l'attention assez longtemps et de la maintenir l'attention de l'auditeur. Donc ça dépend vraiment de la capacité à varier et amener quelque chose qui reste intéressant. Donc ça dépend un peu. Moi, j'avoue que je n'ai pas vraiment de limite en termes de pour ça. Donc, ça dépend vraiment du morceau au morceau.
Moi, en général, je crois que les moments de couplet et de refrain sont à peu près équivalents. Alors, des fois, je fais durer un peu plus longtemps le couplet si j'ai vraiment beaucoup d'éléments à amener. Mais en général, je les fais arriver de pair. Voilà, c'est toujours couplet-refrain, 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 etc. Je fais en général trois blocs comme ça, un peu différents, des fois avec des mélodies différentes, des fois avec même des gammes différentes. Ça, c'est un peu risqué. C'était mon fameux premier morceau là, que j'ai hâte de réécouter. Voilà. Donc, chorus, moment fort, claque émotionnelle ou claque rythmique aussi. Voilà, ça dépend du type de morceau qu'on veut faire. Et ensuite, il y a le break. Voilà, le break, comme son nom l'indique. C'est une voiture un peu allongée, c'est ça? Ah non, c'est pas ça.
C'est pour reposer un peu l'auditeur, laisser le moment de rattraper un peu son souffle, déjà comme ça peut être dans les concerts, dans les DJ sets, ou ça peut être simplement aussi pour reposer un peu les oreilles de l'auditeur, et ça permet de marquer un temps avant de repartir de plus belle surtout.
Ouais.
Donc c'est ça le but du break.
Ouais, mais Linvi, moi, tu sais, quand j'écoute de la musique, j'ai pas envie que ça s'arrête, moi, j'ai envie que ça soit tout le temps, tout le temps, tout le temps à fond. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre un break? Je comprends pas. Si je comprends, mais je veux te faire parler, vas-y.
Bah oui, maintenant, comme j'ai dit, ça, soit pour reposer l'auditeur, soit vraiment pour, justement, ça va permettre de marquer une plus grosse dénotation quand tu vas repartir, justement. Ça, les gens vont être beaucoup plus impliqués encore lors du deuxième chorus ou du deuxième refrain, parce que justement, ça va repartir encore de plus belle. En général, on va rajouter encore des éléments en plus, et le fait d'avoir calmé un peu l'ambiance avant de repartir, ça marque, ça permet de dénoter justement. Donc, c'est ça que c'est cette cassure qui permet de marquer, ouais. Je pense, qui va donner plus de puissance au drop en particulier. Donc,
effectivement, ça va vraiment faire monter une certaine pression. Ça va permettre aussi de souffler. Moi, des fois, je voyais dans certains morceaux où je montais trop effectivement sur les chorus. Le fait, à un moment donné, juste d'enlever aussi la base rythmique, d'enlever les drums, ça te fait tout d'un coup, pouf, ça te fait respirer. Et surtout, ça te permet aussi de retrouver des éléments. Souvent, je sais pas, moi, t'as planqué des trucs dans ton morceau, un pad qui était là, mais qu'il y avait tellement d'éléments qui étaient présents que tu te souvenais même plus qu'il était là. Tout d'un coup, t'enlèves un peu, tu refais un break et tu rentends ce pad, tu fais « Ah ouais, ce pad était bien, il était là, etc. » Ou des fois, une basse aussi hein, qui était tellement, je dirais pas caché dans le mix, parce que s'il est caché dans le mix, c'est que t'as mal mixé ton truc aussi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais disons que ton attention était captivée sur le lead, sur la voix, sur quelque chose, et hop, tu fais disparaître. Et en fait, tu retrouves des éléments qui étaient plutôt dans le couplet ou des choses comme ça. Et tu dis, ah ouais, c'est nouveau bien, etc. Autre chose de très important dans le break qu'il y a à faire, c'est de faire monter ensuite une tension, de créer une tension. Et de refaire ce qu'on appelle, alors ça se fait beaucoup dans la trance, où tout d'un coup c'est un tout 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 et puis ça monte quoi. Donc ça se retrouve beaucoup là et ça permet de créer une anticipation, c'est-à-dire que ça laisse deviner à l'auditeur que quelque chose va arriver et ça c'est très gratifiant pour l'auditeur parce que l'auditeur il va arriver, il va se dire bah moi je sais ce qui va se passer et en plus si son cerveau va automatiquement un peu calculer les barres, il va se dire « Putain, ça va arriver là, ça va arriver là, ça va arriver là, hop !» Et paf, ça part. Et là, il y a une satisfaction. Et je pense que dans les morceaux actuels, et surtout électro, on n'arrête pas de jouer avec ça. C'est-à-dire break, remontée, satisfaction, chorus, break, satisfaction, etc. etc. Oui. Et en fait, ça crée un peu ce côté « Ah, mais j'ai passé un bon moment là, parce que... j'ai quasiment deviné tout seul ce qui va se passer, j'ai pu anticiper. Moi, je me souviens, peut-être toi aussi, quand t'allais en boîte ou en festival, quand t'as ces morceaux qui sont sur le point d'exploser et que tu sais à quel moment tu dois refaire les mouvements pour danser alors que t'étais en train de plus trop danser et t'as cette satisfaction d'être juste sur le beat. Ouais!
Bah oui, c'est un peu l'ascenseur émotionnel.
Exactement.
Et aussi, des fois, comme on peut voir dans certains DJ sets, c'est que comme tu dis, drumroll qu'on va faire pour monter la tension, des fois on va le faire durer un peu plus pour justement, on tient plus, on a envie que ça parte, et quand ça part c'est libérateur en fait.
C'est ça, voilà. Ça, ce côté libérateur de comme si t'as gagné
ta récompense et ta dopamine.
Voilà, exact, dopamine, tout à fait, voilà. Putain, c'est juste biologique quoi. Oh là là, c'est... Voilà. Donc ça c'était pour le break, et toutes les bonnes choses ont une fin.
Oui. L'outro.
Voilà, à quoi ça sert une outro? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une outro? Qu'est-ce qu'il faut pas mettre dans une outro? En fait, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut pas mettre?
Les fondus.
Ah, oh, si, ça se fait.
Ça se fait, mais voilà.
Ça se fait encore, d'ailleurs.
Je connais des gens qui disent que c'est pas bien. Mais voilà, ça, c'est un parti pris.
C'est pas bien. Alors,
on va dire que c'est la solution facile. Ouais. Quand c'est bien fait, pourquoi pas? Mais voilà, faut pas faire que des fondus, quoi. Donc, des fois, c'est bien d'être créatif sur l'outro aussi et pas tomber dans la facilité de faire que des fondus. Donc,
alors, fondu, juste pour situer, c'est... En fait, tu prends ton couplet, hein, comme on disait avant, le couplet, c'est le truc où tu peux te reposer dessus et puis ça tourne en boucle. Et puis, c'est ce que tu fais, tu prends le potard de volume et tu fais... Tu descends. Et puis, ça part.
Voilà, c'est le volume qui descend. Voilà. Jusqu'à ne plus rien entendre.
Voilà. Donc, ça, c'est effectivement tout. Facile, hein. Oui, tu disais ?
Non, je dis c'est tout, c'est trop ça.
Alors, pour la petite histoire, moi j'en entends beaucoup, comme je fais de la synthwave. En fait, la synthwave, le truc c'est que ça imite les années 80. Donc, le problème c'est que ça se faisait énormément dans les groupes de rock, les groupes de pop dans les années 80. Et donc, beaucoup de morceaux de synthwave refont ces fondus-là, pas par souci de facilité, Mais en fait, par hommage, en fait.
Oui, après, bon, t'as aussi con, des codes mais... hostiles, hein, ça...
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois que je l'entends, je le repère tout de suite, quoi. Je dis, oh, là, c'est facile, quoi.
Ben, ça marche bien aussi sur les trucs un peu progressifs ou autres, mais... Ouais. Quand c'est un peu d'électro, de l'EDM, par exemple, c'est un peu plus compliqué de juste partir comme ça. Ça fait un peu partir comme un voleur, quoi. Donc, t'as monté la sauce, t'as amené plein de dopamine, et puis après, bah, tu te barres juste comme ça, on descend le truc... Sans dernière petite surprise, sans un petit rappel, sans quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement dans une outro? On fait, je dirais pas la même chose que dans une intro, parce que dans une intro, on introduit aussi des éléments intéressants et forts pour faire catchy. Mais là, dans l'outro, on va essayer progressivement de faire disparaître des lignes d'instruments. Peut-être utiliser des filtres. Moi, j'utilise beaucoup des filtres pour faire disparaître au fur et à mesure, je sais pas moi, le pad ou la mélodie. Histoire qu'il reste peut-être plus qu'une ligne rythmique. Des fois, il reste plus que la basse, tu vois. Je fais disparaître un peu toutes les lignes d'instruments. Il me reste la basse et peut-être un kick. Et à la fin, j'enlève le kick et t'as juste encore la basse qui rebondit encore. Et qui disparaît. Et après, net. Et la place nette. T'as pas cette histoire, cette impression que le volume baisse. Par contre, l'intensité baisse, clairement. Et toi, tes outro, tu les fais comment?
Ouais, bah, encore une fois, ça dépend un peu de l'ambiance du morceau. Quand on dit des morceaux qui s'arrêtent net,
ouais.
Ceux qui amènent un peu vers autre chose, un autre qui forme un genre de petit rappel, genre ils enlèvent certains éléments, ils gardent peut-être encore des éléments qui rappellent un peu d'autres parties du morceau, mais en version plus douce, pour dire, voilà, on est toujours là, mais c'est bientôt la fin.
Non.
Mais voilà, moi, je n'ai pas vraiment de technique ou de... J'explore déjà plusieurs genres, mais en plus... Ça dépend vraiment du morceau et de l'ambiance que je sens, ce que je sens sur le moment, ce qui est adapté. Donc, pas d'habitude là-dessus, quoi.
Ouais. Petit retour aussi sur tout ce qui est intro et outro. Il se peut que l'intro et l'outro un but aussi dans tout ce qui est mix pour club. T'es d'accord avec moi?
Oui.
C'est important. On voit souvent, quand t'écoutes de la musique dans le streaming, ton morceau, il est court, peut-être il fait 2 minutes, 3 minutes, ce genre de choses. Et il n'a pas besoin d'une grosse intro ni d'une grosse outro. Pourquoi? Parce qu'on veut juste écouter le track, on veut écouter son cœur et puis on veut passer à autre chose. Quand on est dans un club, qu'on est un DJ, peut-être ça se fait moins maintenant, mais d'expérience, c'est quand même très très pratique, c'est d'avoir une intro et une outro assez longue et répétitive pour qu'on puisse simplement enchaîner des morceaux entre eux. Parce que quand un morceau est fini, et qui s'arrête net, comme tu l'as cité avant,
oui.
Tu te retrouves avec un gros blanc dans ta boîte de nuit. Donc, c'est
dur d'enchaîner en tout cas. Mais...
C'est très dur d'enchaîner.
Après, c'est aussi ce que tu dis, ce que tu décris aussi, c'est fort lié au fait de faire des versions extended mix.
Exactement, oui.
Mais c'est pas forcément applicable si tu fais une version radio-edit ou une version de 3 minutes 40, donc ça dépend un peu. Mais ça peut être un parti pris. Oui.
Donc, on pourrait des fois entendre des morceaux qui ont bizarrement une intro très répétitive. Puis après, il y a tout ce qui se passe au milieu. Et puis à la fin, encore pendant, je sais pas moi, 8 bars, que la rythmique avec la basse et ce genre de choses. Et on se demande, ouais, mais c'est un peu longuet, quoi. Mais en fait, ça permet simplement d'enchaîner. Ça se faisait beaucoup dans le temps du vinyle aussi, puisque quand tu enchaînais des vinyles, tu pouvais pas te permettre d'avoir des solutions électroniques pour reboucler automatiquement ton son, quoi. Tu devais vraiment enchaîner 2 vinyles entre eux et attendre ces périodes-là pour pouvoir enchaîner, etc. Donc voilà. Mais ça se fait de moins en moins, ou ça se fait effectivement quand tu fais ton extended mix. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour présenter ces différentes sections. On parlait aussi de comment sortir de ce blocage. J'aimerais revenir un peu dessus, parce que c'est quand même important.
Oui.
Comment passer de la hit bar loop à l'arrangement. Les fameuses techniques. Alors moi, la technique, c'était, comme je disais, copier-coller. Voilà. Je prends ma boucle que j'ai travaillée en mode loop. Voilà. Côté dans mon digital audio workstation, et je le colle en arrangement, puis j'en fais des copies l'une à côté de l'autre, et puis je commence à les varier entre elles. J'enlève un peu de ci, j'enlève un peu de ça, je varie un peu la mélodie, ou je fais un pad différent, ou je fais un effet sur différents instruments. Donc comme ça, je développe un petit peu l'arrangement. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme astuce, toi? Tu en avais développé une avant, un petit peu?
Ah ben, moi, j'ai dit, c'est peut-être de manière linéaire, donc... Peut-être prendre un morceau de référence, de regarder comment ils ont construit, comment ils ont amené les différents éléments. de reproduire peut-être, pas de reproduire forcément complètement, mais de reproduire juste la structure, donc pas les mélodies. D'essayer de reproduire peut-être les structures, du moins les grosses, donc faire peut-être un refrain, un couplet, une intro, et après de regarder, et seulement regarder après, de se dire comment je les enchaînerai après.
Mm-hmm.
Donc peut-être, voilà, soit ça, ou soit travailler vraiment de manière linéaire, pour ceux que ça pourrait peut-être aider plus. Parce que le problème, c'est que vu que ça commence, ça dépend, je pense, de l'esprit des personnes, parce que si quelqu'un pense de manière linéaire, dans la ligne du temps, je veux dire, pour quand il compose, bah, le fait de commencer directement par le milieu, ça peut être peut-être bloquant, je pense. Donc,
ah, oui.
Donc peut-être le fait de commencer par une intro, puisqu'on habitue aussi d'entendre les morceaux dans l'ordre, d'abord l'intro, etc., je pense que ça peut peut-être aider de travailler de manière linéaire.
Ah, c'est pour ça que tu me disais toujours, moi je commence par l'intro, etc.
Oui.
Ah, bah, d'accord, maintenant j'ai compris, voilà.
Ouais, je commence par le milieu, mais après, effectivement, j'enchaîne avec l'intro et d'accord. J'aime bien. Et je visionne déjà ce que je vais faire avec pour savoir où aller. Parce que si je me contente de faire, comme certains font, de faire en gros, une grosse série de bar loop avec tous les instruments, etc., puis de détailler par après, ça, j'ai du mal. D'accord. Moi, j'ai plus facile de. Oui, je commence quand même par la. Il faut bien que je commence par quelque part, donc je commence par le cœur du morceau, avec une petite série de bar loop. Mais après, je commence à faire mon intro, etc., et j'agrémente des éléments, je les ajoute au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a, ils font plutôt l'inverse, ils font la hit bar loop, mais avec tous les synthés, tous les instruments qu'ils vont avoir dans le morceau, et après, ils détaillent. Donc, c'est deux façons de travailler. Voilà, je pense qu'il faut tester les deux, voir un peu ce qui peut aider les personnes pour se débloquer de ça.
Moi, je travaille aussi avec, en mode arrangement, avec des marqueurs. Je crois que toi, tu fais aussi ça ou pas?
Oui. Ouais. Oui, j'ai des marqueurs prévus dans Logic où, effectivement, il y a les principaux, il y a intro, couplet, vers, voilà. Etc.
Donc, effectivement, comme j'ai remarqué que j'utilise principalement toujours un peu le même type d'arrangement, ben je me suis déjà mis des marqueurs. Comme ça, dans le temps, dans la temporalité, je sais que à ce moment-là, il faut que j'enchaîne sur autre chose. Si je dépasse ce marqueur, ben je risque d'être répétitif ou pas. Alors, bien sûr, ces marqueurs, ben, ils vont varier, mais dès que j'ouvre un nouveau projet, ces marqueurs sont déjà présents. J'ai pas besoin de me les retaper. Voilà, ils sont
ça,
là.
C'est pareil. Ça m'aide, ça m'aide de savoir qu'ils sont là. Même si je m'en sers pas, ça m'aide juste de les voir.
Et ça me permet aussi de pas oublier des sections, peut-être. C'est rare, hein, mais au moins, en tout cas, ils sont là. Et ça donne une bonne idée. Voilà. Donc, on est tous les deux à utiliser cette méthode, tant mieux. Autre chose à dire pour se débloquer. Alors, ça, c'est plutôt peut-être moi qui le fais. C'est avant toute chose. Quand je débute un morceau, j'essaie de définir qu'est-ce que je veux raconter dans mon morceau. Ouais. Quel est le message de mon morceau? Et en fonction de ça, ça va aussi définir de quelle manière je vais le dire. Est-ce que je vais le dire de façon douce? Est-ce que je vais le dire de façon brutale? À savoir, bon, j'ai même pas besoin d'intro, allez, boum, je balance le truc, il faut que ça punch. Et à la limite, c'est au milieu que je fais plutôt une pause ou que je réintroduis des éléments, je sais pas.
Après. Peut-être comme des sections dans un poème, alors, à ce moment-là.
Effectivement, ouais, ça peut être ça. Donc voilà, donc moi c'est du ce qu'on appelle un peu du storytelling. À quel moment je vais mettre des tensions, à quel moment je vais mettre du relâchement, à quel moment. Puis voilà, donc ça va un peu définir des moments dans le morceau. Est-ce que. Donc toi tu fais pas trop ça, si?
Moi non. C'est ouais. Vrai que moi je suis plus mélodiste, je me considère comme ça en tout cas. C'est la mélodie, je laisse parler la mélodie d'elle-même. Je laisse me guider un peu, mais il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter avec que ce soit les paroles ou autre. Donc, c'est plutôt vraiment ce que la musique, comment je la ressens, qu'une émotion que j'essaye et une histoire que j'essaye de raconter. Donc, c'est un peu une différente vision des choses.
Tout à fait.
Ça, voilà, je crois que c'est propre à chacun aussi.
Ouais, pas de souci. Et on parlait de template avant, template dans un Digital Audio Workstation, c'est que tout simplement, on crée un fichier de base. Déjà tout prêt, avec peut-être même les lignes d'instruments, etc. Tout prêt, les trucs un peu classiques. On le sauvegarde et on dit au logiciel de ben, la prochaine fois que j'ouvre un nouveau projet ou quand j'ai envie d'ouvrir un nouveau projet, je prends ce fichier de référence et c'est ça, voilà. Donc ça te permet déjà de faire du pré-arrangement. Mais on peut aussi se baser sur une référence, que ce soit une référence, comme je disais avant, tu vas sur un site internet et il te trouve des arrangements de base, mais aussi un morceau de référence.
Oui, tout à fait. Les morceaux de référence, ça peut aider pour beaucoup de choses, dont les arrangements, donc analyser la structure. Après, je pense qu'il faut être pertinent, il faut prendre peut-être pas juste un morceau qu'on aime bien, mais prendre un morceau qui correspond au style qu'on veut faire. Et voilà, encore une fois, selon le style, ou peut-être la sonorité, ou le storytelling, on aura peut-être différentes structures, donc il vaut mieux prendre un morceau qui est proche de ce qu'on veut faire, donc forcément. Donc peut-être pas juste prendre un truc qu'on aime bien ou qui marche, mais aussi prendre un truc qui est vraiment le plus proche possible de ce qu'on veut faire et analyser sa structure pour, voilà, pour essayer de reproduire. Donc encore une fois, pas forcément juste la mélodie ou même ne pas reproduire la mélodie du tout, mais juste la structure. Donc.
Ok. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces blocages-là. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a aussi des commentaires dans les différentes plateformes de podcast, etc. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on est allé trop vite sur le comment sortir de ce fameux blocage. Parce que pour nous, c'est tellement évident maintenant.
Mais c'est un déclic, c'est ça le problème. Ouais, c'est un déclic à avoir. Donc, je pense que c'est le genre de moment, c'est le moment Eureka, comme je dis, un peu le déclic. C'est dur à expliquer, on est coincé dedans pendant un moment et une fois qu'on arrive à franchir l'étape, ça devient évident tout d'un coup, donc il y a tout qui s'éclaircit. Donc nous, on peut juste donner des pistes, des idées sur comment avoir ce déclic-là, mais on ne peut pas le provoquer.
Ok.
Et donner on ne peut pas donner une manière de faire concrète, parce que là, c'est plus de l'abstrait. Vu que c'est un blocage psychologique, je pense qu'on est de l'ordre du blocage psychologique quand on est sur la eight-bar loop. Ou des fois, aussi le manque de savoir-faire, mais je pense qu'il y a la psychologie qui peut jouer aussi pour certains, peut-être la peur d'être intimidé par la structure. Et je pense qu'on peut donner des pistes, mais la méthode, il n'y a pas une méthode parfaite, ça dépend, c'est propre à chacun de comment avoir ce déclic-là.
On peut donner des pistes, mais pas trop, d'accord? Oui. Moi, je travaille sur 12 pistes max. Non, je plaisante.
Oh là là.
non, bref. Oui, donc, moi, je trouve aussi que ce blocage, en fait, on peut se débloquer aussi de façon très visuelle. Je trouve que c'est très visuel. Tu sais, après, quand tu passes en mode arrangement et que tu commences à les mettre l'un à côté de l'autre, ces fameuses loops, etc., et que tu commences à enlever des éléments, etc., je trouve que ça ne se retransmet pas bien oralement. Il faut vraiment être sur le dos avec la personne ou toi, avec des tutos en vidéo, etc. C'est très visuel comme déclenchement, je trouve, écologique. Mais après, voilà.
Une autre idée que j'ai déjà eue, effectivement, peut-être une autre idée pour se débloquer.
Ouais.
C'est peut-être, si on n'a jamais... Parce que je pense que c'est le fait de finir un premier morceau. Et une fois qu'on a réussi à finir un premier morceau, ça va aller pour les autres.
Mmh.
Et je pense que peut-être une idée pour... j'ai suggéré ça à un ami.
Ouais.
C'est que peut-être une idée pour sortir de la eight-bar loop, si vraiment on est bloqué pendant longtemps dessus, c'est peut-être de collaborer avec quelqu'un qui a déjà réussi à faire une track.
C'est vrai.
Et ça pourrait peut-être permettre de voir la collaboration, pour peut-être voir comment l'autre se débrouille ou de voir comment il construit un morceau. Donc.
Mais un artiste qui sait déjà composer des morceaux, est-ce qu'il a envie de collaborer avec un mec qui ne sait même pas sortir de cette loop?
Ça, je dirais, on peut demander sur. Ça peut être aussi des sessions de jam ou autre. Il y en a qui sont intéressés de faire du jam, ou de peut-être qu'on peut avoir une idée super intéressante en eight-bar loop qui peut être intéressante à développer. Je veux dire, des fois, quand tu vas proposer une collab à quelqu'un, des fois, tu peux faire une collab, une maquette assez avancée, mais tu peux aussi peut-être proposer des idées plus simples qui ne sont pas à trop abouties, mais pour avoir une piste de départ. Mais.
Ouais.
Ça dépend, il faut demander, s'il y a des communautés, peut-être, on peut demander.
Alors, moi, je vous donne la recommandation, si vous voulez faire de la collab, écrivez à Osinji.
il va être content.
Il va être content. Vous le retrouverez sur musicwetrust.com, d'accord? C'est notre petit collectif qu'on a fondé, donc l'INVI, PKMWT et Osinji, donc voilà. Vous trouverez de quoi le contacter là-bas, hein? Il adore les collabs. Non, mais c'est vrai, en fait, il adore maintenant les collabs, certes. Bon, il va être un peu...
Mais il a un temps limité aussi. Hein.
Il a un temps limité.
Pas, ne jette pas comme ça.
Mais allez vers lui, plutôt. Voilà, c'est très, très, très...
Non, il n'est pas vers toi. Donc, on a compris.
Non, alors moi, je suis collab, mais je suis très select. Je prends que les meilleurs.
D'accord. OK.
Voilà. Bref, on verra si déjà, nous deux, on arrivera à sortir quelque chose pour une éventuelle deuxième collab. On a déjà fait une première collaboration qui est Midnight X. Si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Très bien, donc là, on a fait le tour un peu sur ce blocage. J'aimerais revenir un peu sur intro, outro, break et drop. Alors, qu'est-ce qu'on met en réalité? On en a un peu discuté, mais on va un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on met dans une intro? Qu'est-ce qu'il faut faire attention dans une intro? Quels éléments techniques on peut utiliser dans les intros? Moi, j'ai des exemples de mes morceaux.
Je vais dire, là, tu peux en parler, parce que moi, je ne conscientise pas forcément ça.
Ah,
donc, du coup,
d'accord.
Tu peux en parler.
Par exemple, on parlait avant de mettre un élément représentatif du morceau. Par exemple, une mélodie, ou par exemple, tu as une super voix, d'accord? Tu as une super voix que tu as posée sur ton truc, et tu as envie de la mettre dans l'intro, mais comme elle révèle beaucoup du morceau, c'est dommage qu'elle soit dans l'intro telle qu'elle. Donc moi, ce que je faisais, par exemple, c'est que je prenais une grosse partie du refrain, par exemple, mais au lieu de le mettre tel quel, je le mettais avec un gros filtre, style comme si c'était, ça passait par une radio ou par un filtre cassette ou un vinyle, tu sais, tu le fais craqueler comme ça avec un coupe-bas très agressif, et t'as l'impression que il passe au fond de la pièce, par exemple, avec une... Hein, et après, boum, t'as le couplet qui arrive, et tu te dis, ouh, putain, je vais entendre ce truc après, là, ça va être cool. Mais quand tu vas l'entendre, il sera full bass, il sera complet, il sera avec la belle voix, etc. Et peut-être même beaucoup plus habillé aussi. Donc, j'utilise un peu ces effets qui diminuent...
Variation avec les filtres.
Voilà, une variation avec les filtres. Qu'est-ce qu'on peut aussi mettre ? Déjà, dans l'intro, ben oui, pas tout balancer d'un coup, ça c'est sûr. Pourquoi, quoique...
Ouais, il faut regarder un peu pour le reste et aussi marquer, peut-être aussi faire un morceau progressif. Non, mais dans un morceau progressif, tu ne mets pas tout dès le début, non.
Je pense que le pire dans une intro, ça serait de mettre une intro qui ait plus d'énergie que tout le reste du morceau.
Oui, parce que là, le but, c'est que l'énergie monte et pas l'inverse, pas qu'elle soit haute dès le début et puis qu'elle descende.
Moi, je vois ça, c'est que, imagine, tu mets un truc extrême à l'intro, vraiment très bon, et tout ce que tu passes comme temps dans le reste du morceau, c'est d'attendre de savoir, mais quand est-ce qu'il revient ce truc ?
Oui.
Et il revient jamais, en fait.
Ça, c'est un peu dommage.
Ouais. Donc là, c'est l'inverse de l'anticipation. C'est-à-dire que tu provoques une anticipation. Et en fait, tu vas avoir une déception. Au bout d'un moment, tu vas couper, quoi. Tu vas dire, non, mais attends. Voilà. Donc, effectivement, faire attention à ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour. Hein.
Bah, pour les intros, oui, je n'ai pas trop d'idées. Ouais. Donc,
pas de souci.
Dis-moi, c'est instinctif. Donc,
À la outro, ce qu'on avait dit, effectivement, c'est de faire diminuer progressivement, pas forcément en diminuant le volume. C'est un peu facile. Mais on peut encore utiliser aussi des effets, peut-être un effet radio aussi, on peut aller outro, on peut aussi utiliser ça.
Il faut être créatif avec les effets qu'on a à disposition, les différents filtres, donc oui, il faut tester, pas hésiter à tester, voir un peu ce qu'on peut faire pour faire de la progression ou changer l'énergie, donc voilà, ou garder, effectivement, garder le même élément, mais avec des effets différents pour porter une variation et marquer les différents blocs, les différents arrangements, donc...
Par exemple, jouer avec des délais aussi, c'est-à-dire que je parlais avant de tout faire partir au fur et à mesure et puis de laisser juste une basse, mais imagine que sur la basse, tu lui mets un petit délai qui va faire qu'elle rebondit doucement. Et
oui, oui, il faut un peu comme les DJ aussi, regarder un peu comment les DJ ils gèrent différents breaks en différents morceaux, etc. Ça peut être intéressant aussi. Donc, ils ont des effets comme ça.
Et un danger là-dedans aussi, que j'ai souvent vu, c'est on ne fait pas gaffe, mais il y a une petite queue de réverb qui va te traîner encore pendant longtemps. Mais toi, je sais pas, moi j'ai par exemple mis mon marqueur fin du morceau, il est là. J'ai mis une reverb. Bah ok. Bah du coup, j'ai fait en sorte que quand je sors mon morceau final, bah en fait, il a sorti au moment où il y a le marqueur end, tu vois.
Oui.
Et puis, t'écoutes ton morceau. Alors, conseil aussi, c'est quand tu réécoutes ton morceau une fois qu'il est fini, écoute-le jusqu'à la fin. Parce que si tu coupes la queue de reverb... ou la queue de l'écho que tu vas générer à la fin, et qu'il est brutal, et que tu ne laisses pas le temps de respirer, bah c'est moche, quoi.
Bah oui, mais moi, je suis parano avec ça, parce que des fois, la reverb, je mets quand elle est longue, mais elle dure un peu trop longtemps.
Ouais.
Et du coup, je mets un gain sur le master et je l'automatise, pour être sûr que ce soit zéro à la fin du...
Carrément.
Ouais.
D'accord. Alors moi, des fois, je triche...
C'est la seule automation que je fais sur le master. Hein.
Moi, je triche, je fais autre chose, c'est... J'ai cette reverb et là je fais un effet aussi de diminution progressive des gains, tu sais, comme ce qu'on a dit qu'il faut pas faire là.
Oui.
Mais sur une queue de reverb ça va. C'est juste pour être vraiment sûr effectivement qu'elle disparaisse. On sait jamais. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre là ? Clore ou laisser en suspens ?
Ah oui.
Laisser en suspens.
Donc est-ce que le morceau, est-ce qu'il faut pas le mettre de côté pour peut-être le finir plus tard ?
Ah. D'accord. C'est ça que ça veut dire ?
C'est ce que je croyais.
Ah, d'accord. Pas de souci. Oui, ça c'est une technique quand on ne sait pas finir un morceau ou qu'on ne sait pas faire une intro. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé dans mon dernier morceau qui n'est pas encore publié, qui n'a pas encore de nom d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, l'intro était pourrie, je l'ai enlevée et puis j'ai laissé dormir le morceau. Après, je l'ai présenté à mes camarades du collectif qui m'ont trouvé une intro. D'ailleurs, c'est très sympa. Mais des fois, effectivement, laisser un peu de côté, laisser reposer, laisser mariner, laisser mijoter les choses. Peut-être qu'elle viendra d'elle-même, cette intro, cette autre.
Ou peut-être qu'en réouvrant le projet 2-3 jours après, on a un regard plus frais, plus nouveau. Aussi, ça peut laisser peut-être cogiter ou s'inspirer d'autres morceaux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur 2-3 jours. Mmh, donc, mmh. Voilà, des fois, moi aussi, ça m'arrive, même si je sais faire des morceaux complets, ça m'arrive des fois d'être bloqué à certains stades, et des fois, ça m'arrive d'être bloqué sur le 8-bar loop encore maintenant. Et je le mets parce que c'est peut-être juste la progression d'accord qui ne m'inspire pas plus que ça pour le moment. Donc, je la mets dans un dossier où j'ai d'autres bouts. Et puis après, je regarde autre chose, voir si je peux avancer sur un autre morceau. Donc, voilà, ça peut être une bonne idée aussi. Bon, après, voilà, ça c'est... On est bloqué qu'avec des barloops partout, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut se référer aux autres astuces qu'on a données.
Tout à fait. Après, il y avait une autre... Je sais pas si ça se fait que c'est bien. Tu sais, tu parlais avant des techniques de DJ, écouter un peu ce qu'ils font pour t'enchaîner ou finir les morceaux. Tu sais, l'effet où t'éteins la platine de vinyle et ton morceau, il fait biou, 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 biou.
Oui.
En fait, voilà. Est-ce que ça se fait, ça?
Bah, je veux dire, tout se fait à partir du moment que ça vous plaît, donc...
Est-ce qu'on finit
pourquoi pas, il faut tester.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que ça, en général... en général, t'as l'impression, t'espères que ça va repartir derrière, donc c'est vrai que je sais pas si c'est le.
Ouais. C'est vrai.
Après, t'as peur que ça peut ça, et puis t'attends le rappel en fait derrière, donc je sais pas. Ça dépend de comment c'est amené, donc il faut regarder ça dépend du contexte, comment c'est amené. Mais après, je veux dire, faut pas hésiter à tester, et faut tester en fait, c'est la magie de la musique électronique, c'est qu'on peut tester tout et ne pas s'enfermer dans un workflow ou autre, et c'est de pouvoir tester plein d'effets et de voir ce que ça donne en fait.
Ou alors, ce qui peut se faire aussi, tu sais, dans les morceaux un peu plus acoustiques, rock et compagnie, ils finissent toujours par une envolée de batterie, tu sais, tout, tout, tout.
Oui.
Ouais, ça peut se faire aussi, ça. Tu sais, j'ai jamais essayé ça. Il faut que
bah, du coup, t'essayeras.
Voilà, exactement. Très bien, break, les breaks, donc rôle, tension dramatique. Qu'est-ce qu'un drop réussi VS un drop plat. Comment créer l'attente et la délivrance. C'est ce qu'on parlait avant. Là.
Oui.
Voilà. Moi, j'avais déjà remarqué dans des morceaux que j'écoutais ou qu'on m'a demandé d'écouter, c'est effectivement, t'as une super build-up d'énergie, puis t'as le break, et puis au retour du break, en fait, c'est pas qu'il y a moins d'énergie qu'avant, mais il n'y en a pas plus.
Ouais, ça, c'est pas bon, faut que ce soit constant, faut que le deuxième drop soit plus puissant que le premier encore. Donc, faut voir ça comme ça doit toujours monter au final.
Ouais.
Donc, il faut faire attention à ça. Il faut
vraiment créer quelque chose. Il y avait une astuce, je ne sais pas si elle est pertinente, mais il me semble que je l'avais usée dans certains morceaux. C'est par exemple, j'ai pas d'autres idées, merde, j'ai un chorus là, il est comme ça, bah, je vais l'utiliser deux fois parce que c'est mon chorus, quoi. Mais en fait, j'avais une astuce, c'était qu'au deuxième chorus, je le montais d'une octave, mon lead, ou alors je le doublais. C'est-à-dire que ma ligne, c'était une ligne simple et elle était à peu près dans les médiums hauts, on va dire ça comme ça. Bah, tout d'un coup, je prends le même lead et je le double une octave plus haut. Tout d'un coup, ben, le morceau est un peu plus dans les aigus. Il a aussi plus d'énergie, il est plus présent. Et ça lui donnait du peps. Mais par contre, j'ai rien changé. Finalement, c'est la même ligne de mélodie, c'est le même cœur, il y a le même pad, il y a la même basse. Mais en fait, il est plus présent dans le spectre auditif, quoi.
C'est pour ça qu'il faut jouer avec les outils, les effets à disposition. Ouais. Donc, un simple effet bien amené peut donner une autre dimension.
Ça peut être aussi une basse que, par exemple, tu vois, elle est un petit peu genre juste la root note comme ça, qui fait boum, 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 boum. Puis tout d'un coup, tu la fais jouer aussi avec les octaves, tu sais. Boum, 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 boum.
Mm-hmm.
Et ça, tout d'un coup, ça va tout d'un coup faire sortir ta basse. Parce que ta basse, elle est souvent un peu noyée, un peu dans le fond du morceau. Et puis si tu la fais monter un peu dans les octaves, il faut la garder en basse, hein, ça reste une basse. Hein. Et il faut pas... Ouais, voilà. L'idée, c'est, si tu la fais un peu découvrir dans les médiums, tout d'un coup, elle va ressortir et ça peut être intéressant. Voilà, c'est des effets, comme tu dis. On peut jouer avec tout ça. Voilà, voilà. Autre chose à rajouter ?
Non, il faut être créatif avec les effets et il ne faut pas hésiter de tester. Voilà, et si vous êtes bloqué ou vous êtes en manque d'inspiration, ça peut arriver, c'est normal. Il faut pas hésiter à s'inspirer, de voir ce qui a été fait ailleurs. Donc voilà, comme je dis, c'est pas forcément copier le morceau, mais juste analyser et conscientiser. Parce que quand on écoute les morceaux tranquillement, quand on marche ou quand on est en train de faire autre chose dans le métro, on conscientise peut-être pas certaines choses. Faire de l'écoute active, vraiment analyser comment les structures sont faites, ça peut aider aussi. Donc il faut vraiment s'inspirer et tester des choses. Et voilà, et après, ça peut mener à quelque chose. Donc il faut être créatif, simplement.
Et surtout... Pour rappeler un petit peu le sujet de ce podcast, hein, c'est passer de la 8 bar loop à l'arrangement, il faut franchir le pas. Tout le monde peut y arriver. Ce qu'il faut, c'est simplement déjà une bonne idée de base, hein, ça c'est sûr. On peut pas faire une 8 bar loop avec n'importe quoi, on peut pas non plus faire un arrangement avec avec rien. Voilà, ça c'est sûr. Il faut quelque chose. Mais on peut y arriver, c'est très facile. Puis il faut juste se bouger le cul et puis c'est bon quoi. Pas de problème. Voilà.
Pas se bouger le cul, oui, il faut avoir le déclic en fait. Donc.
Faut avoir le déclic, mais toi, tu vois, tu y arrives tout seul, à coup de...
De pression, d'autopression, voilà. En me mettant une deadline. Ouais.
Moi, j'avais besoin d'un professeur qui me l'apprenne et qui m'a bien aidé là-dessus. Voilà. Mais voilà, tout est possible. En tout cas, courage à ceux qui n'y arrivent pas.
Mais vous allez y arriver, hein.
Ouais, bien sûr. Et puis, on a hâte d'écouter où vous en êtes. Si vous voulez partager des morceaux, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous invite aussi à partager cet épisode. Si vous connaissez peut-être une personne qui était bloquée situation, ou qui est bloquée dans cette situation. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur vos plateformes de podcast habituelles. Je crois qu'on sera sur Spotify, Apple Music, Podcast Addict, plateforme que moi j'utilise en tout cas. On a un flux RSS si vous vous abonnez par là. N'hésitez pas, entre deux notes. Voilà. On l'a déjà rappelé, mais on peut nous trouver sur
les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, moi, @linvimusic.
Toi ? Moi, c'est @pkmwt, voilà. Et puis sinon, mwtprod.com. On avait effectivement le collectif musicwetrust.com. Donc là-dessus, vous pouvez retrouver, faites les mêmes contacts qu'on vient vous dire. Et puis aussi, vous retrouverez Osinji, à qui il faut bien sûr envoyer des demandes de collab en masse.
Ne le faites pas.
Bon.
Le pauvre, il va être submergé de...
Mais non. Voilà, et vous lui direz le bonjour de l'Invi, bien entendu.
Oui, bien sûr.
Voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'être resté avec nous entre deux notes. Et je vous dis à très vite.
Ciao, ciao, à bientôt.
Ciao.